Bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Blooming You, le podcast qui vous propose un sas de décompression afin de vous aider dans un monde qui s'accélère à penser mieux, manger mieux et consommer différemment. Nous avons une ambition, celle de vous inspirer, vous aider à mieux vous connaître, à penser vos vies autrement et surtout vous faire du bien. Chaque semaine, nous vous donnerons des clés de compréhension pour servir cet objectif au travers de rencontres inspirantes, de partage d'expériences ou encore d'éléments culturels qui nous font progresser. Je suis Amal Dadol, votre hôte, et j'espère que ce contenu fera sens pour vous. Aujourd'hui, place aux blessures d'enfance. Nous pouvons blesser ou être blessés dès la toute petite enfance. Les conséquences peuvent être graves. Mal-être, comportement à risque, agressivité, addiction ou encore manque de confiance en soi. La bonne nouvelle annoncée dans le livre « Écoute la petite musique » du Clos des Anges de la psychopraticienne Ondine Gaillat aux éditions Solar, c'est que l'on peut guérir de ces blessures psycho-affectives une fois qu'on les a identifiées. Et son roman nous aide justement à les reconnaître, présentant ainsi un double intérêt, celui de conduire vers la guérison les personnes blessées et celui de faire prendre conscience aux parents des comportements qui peuvent se révéler traumatisants pour leur enfant. Les traumatismes entravent le développement de la personne, mais rien n'est irréversible. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui Ondine Gaillat, qui va nous aider en 3 épisodes à mieux comprendre ce qu'est une blessure d'enfance. Comment on les identifie? Comment se réactivent-elles dans nos vies d'adultes? Quelles sont les conséquences d'une blessure qui n'est pas soignée à temps? Et comment guérir de ces blessures d'enfance? Ce sont ces questions que nous avons posées à Ondine. Bienvenue à tous dans le 3e et dernier épisode consacré aux blessures d'enfance. Bonjour Ondine.
Bonjour Amal.
Alors, comment soigner nos blessures d'enfance? Vous dites, Ondine, renoncer à avoir un passé meilleur. C'est quoi renoncer à avoir un passé meilleur et pourquoi?
En fait, je pense qu'il y a quelque chose d'important, c'est d'accepter à un moment donné d'avoir été un peu abîmé dans nos vies. C'est-à-dire que vouloir absolument tout guérir, tout soigner, être heureux, aller bien, c'est des injonctions qui, à part qu'elles nous font culpabiliser, elles ne sont pas réalistes. C'est-à-dire qu'on peut avoir un passé avec des blessures et travailler sur soi, réussir à soigner nos blessures. Et je pense que renoncer à avoir un passé meilleur, c'est « Ah là là, si j'avais pas vécu ça, si j'avais eu un père comme si, au cabinet, je vois des gens « Oh là là, mais si j'avais fait, si seulement j'avais fait ce travail plus tôt. » Vous voyez, tous ces « si », ça rajoute de l'angoisse à l'angoisse, en fait. C'est, on peut avoir un vécu difficile. Et comprendre que ce n'est pas nous qui sommes définis par ce vécu-là. Encore une fois, au cabinet, je vois des gens qui réussissent des choses. Il y a des parts de leur vie qui tiennent, qu'ils ont réussi, et pourtant, ils ont des parts blessées. Et ils peuvent se sentir nuls, très en souffrance, etc. Et en fait, c'est important de préciser que nos blessures, elles ne nous définissent pas entièrement. C'est des parts de nous, c'est pas entièrement nous, en fait. Et ça nous permet, ça, de comprendre qu'on a des ressources et d'aller les chercher, ces ressources. Donc, je crois qu'au moment où on renonce à avoir un passé meilleur, on accepte ce qu'on a vécu. On accepte qu'il y a eu des ratés. On accepte d'avoir été blessé. Et que c'est pas parce qu'on a été blessé qu'on est nul, qu'on peut rien faire, qu'on n'arrivera à rien. C'est comprendre les impacts que ces blessures ont eu sur nous et comment faire, en fait, parce que c'est ça aussi le travail thérapeutique, c'est comment je fais de ma douleur une expérience. Et ce passage-là, il me permet d'avoir trouvé mes ressources.
Et donc, comment on donne une place à nos blessures dans nos vies?
Déjà, c'est de les écouter. Je pense que le problème qu'on a tous, c'est les moments où on se sent mal, on n'arrive pas à identifier toujours d'où ça vient et on fait quelque chose pour ne pas ressentir, en fait. Et donc, quand on se coupe d'un ressenti parce qu'il nous met mal à l'aise ou qu'il nous fait mal, On s'éloigne de la zone dans laquelle en fait on a besoin d'aller pour comprendre ce qui s'est passé et l'impact que ça a sur nos vies. Donc c'est pas, je veux dire, on peut, alors je parle pas des moments où on a des choses à faire et on ne peut pas se permettre de donner une place à nos blessures. Il y a évidemment des moments dans nos vies, si on a un travail à rendre, si on a absolument une contrainte, il y a des moments où c'est pas le moment, clairement. Mais je parle des moments où on peut le faire. Et si on ne le fait pas, la blessure continue à crier. Donc on a beau essayer de mettre des boules qui est, il y a un moment donné où notre passé, il attend, et puis à un moment donné, il va se manifester. Donc quand on a un ressenti de souffrance, on peut faire des exercices d'écriture. Moi, j'en donne à mes patients, et ça fonctionne bien. C'est-à-dire que prendre une feuille, un crayon, et écrire ce qu'on ressent. Écrire ce qu'on ressent, on peut écrire une lettre à l'enfant qu'on a été, on peut écrire une lettre à des gens qui nous ont fait mal, on peut écrire une lettre à des personnes qui sont décédées, leur dire des choses qu'on n'a jamais pu leur dire, ou exprimer sa colère sur papier. Enfin, l'écrit, c'est vraiment à la main, hein, écrire à la main. Ça permet de sortir de nous ce qu'on ressent. Ça permet, c'est un contenant en fait, ça définit des contours. Parce que dans la souffrance, en fait, il n'y a plus de contours. Des fois, on a l'impression qu'on est complètement submergé. On a besoin de retrouver des contours, de mettre des mots sur une émotion. Parce que si on ne met pas des mots sur l'émotion, elle prend toute la place, le ressenti prend toute la place. Et c'est là qu'on se met à paniquer. Donc, nommer ce qu'on ressent, et puis, oui, accepter d'avoir échoué, accepter d'avoir un passé difficile. Voilà, c'est ça, c'est renoncer à écrire le roman de nos vies comme s'il s'était rien passé. Non, dire, bah oui, ok, il s'est passé ça, et ok, j'avance.
Ceux qui se disent, oui, d'accord, j'ai été blessé dans ma vie, très bien, aujourd'hui ça se passe bien, j'ai ce qu'il me faut, tout va bien, bon, de temps en temps ça vient peut-être un peu me titiller, et encore que quand j'en ai conscience, parce que est-ce que j'en ai conscience, est-ce qu'il y a un moment, ce serait pas plus sage de se dire, bon, ben, tout va bien, je continue comme ça, enfin je veux dire, pourquoi aller ressasser le passé, pourquoi, oui.
Non, mais si tout va bien, tout va bien. Le problème, c'est que les gens qui ont eu des blessures, tout va pas bien. C'est-à-dire, tout peut aller bien en apparence. Donc, ils peuvent réussir des trucs, être bon, mais ils peuvent développer ou avoir développé des comportements de compensation à leur douleur. Donc, ils peuvent faire du sport à outrance, s'étourdir dans le travail, avoir une addiction sexuelle ou à l'alcool, ou des. Voilà, y a plein. Il y a même des gens, ils sont addicts à la méditation. Je veux dire, ils fuient dans des comportements valorisés par la société. Ça, c'est les plus difficiles à déconstruire. Parce que l'alcool, bon, au moins tout le monde sait que c'est pas bon, mais quand c'est le travail, ça peut être très valorisé, ou la méditation, c'est censé être très bien. Je veux dire, bien sûr, mais ça dépend avec quelle intention vous faites les choses. Donc le problème, c'est que tant que vous avez un système de compensation qui tient, bon, bah, c'est un système de défense qui tient. Le jour où il s'effondre, c'est là que c'est plus difficile. Donc, le jour où votre système de défense ou de compensation n'arrive plus à circonscrire votre souffrance, c'est là que la souffrance devient très vive et qu'il n'y a plus de moyen de l'anesthésier. C'est exactement ce qui arrive à Raphaël, mon héroïne, dans le roman Écoute la petite musique du Clos des Anges. Elle peint pour ne pas ressentir, elle fuit le réel. À la mort de son père, elle est au pied du mur parce qu'elle n'arrive plus à créer. Donc en fait, le système de compensation ne fonctionne plus. Et là, c'est là qu'elle commence à avoir des attaques de panique, des crises d'angoisse. Donc c'est ça le problème en fait. C'est à un moment donné, on peut essayer des choses, on peut être créatif dans l'élaboration de nos systèmes de défense, mais à un moment, on se met en danger et on se coupe aussi des autres. Donc notre entourage peut attirer notre attention sur le fait que là, ben, ça va pas bien, quoi. Et c'est là que ça devient difficile, en fait, pour les personnes qui créent des systèmes de défense avec missiles solaires très, très performants. Il y a des moments où ils sont rattrapés par ce qu'ils ont vécu et qu'ils n'ont pas pu ou voulu confronter.
Comment on sait quand on vit autour d'un système de compensation ou de protection.
De la protection, on en a tous besoin. C'est-à-dire qu'on a tous besoin de mettre des limites, d'avoir une zone de sécurité. Ça, c'est pas le souci. Le souci, c'est le système de compensation qui vient masquer une souffrance.
Comment on le définit? Comment on sait qu'on est là-dedans?
C'est des
Si on...
comportements, par exemple, où on a tendance à boire beaucoup trop, où on est en boulimie, où on est en anorexie, en refus d'avaler quoi que ce soit. Bon, ça, c'est encore un autre sujet, mais ça exprime aussi une grosse blessure, c'est-à-dire que tout ce qui est extérieur est tellement vu comme toxique que j'ai besoin de garder un contrôle et pour avoir une sécurité. Je peux avoir des heures de méditation à un moment qui me coupent du monde réel, tellement travailler que je mets ma santé en danger. Vous voyez, on a tous quand même des petites alertes dans nos systèmes. Le sport à outrance avec comment, je commence à avoir des douleurs et des gens qui continuent à faire du sport malgré leurs douleurs parce qu'ils ne sentent plus ou ils savent que s'ils arrêtent, il y a d'autres choses plus douloureuses qu'ils vont sentir. Vous voyez, c'est tout, c'est, on le sait, on le sait, on le sent qu'on va trop loin ou que c'est inadapté. On a des signes. Donc après, c'est souvent, malheureusement, on a besoin d'aller au bout du bout pour être au pied du mur, quoi. Tant qu'on peut éviter de souffrir, c'est profondément humain, je veux dire. Aucun de nous n'a à se culpabiliser pour ça. Souffrir est insupportable, il faut être clair. Donc on apprend à souffrir dans la vie quand on arrive à voir à donner du sens, en fait, à nos blessures. La question du sens, elle est au centre de nos existences, elle est au centre du travail thérapeutique. Voilà, il y a des questions fondamentales dans la vie. Pourquoi on souffre, pourquoi on meurt, à quoi ça sert tout ça? Enfin, des questions qui sont importantes. Donc le sens, c'est celui qu'on se donne aussi. Donc le sens qu'on donne à nos blessures. C'est pas forcément, mais pourquoi j'ai vécu ça? Parce que pourquoi j'ai vécu ça? Il y a des gens qui vont dire, ah, c'est dans une vie antérieure, t'as fait ci. Il y a deux gens, enfin, c'est n'importe quoi, ou en tout cas, ça nous aide pas, hein. Mais je veux dire, quel est le sens que je donne concrètement à mes blessures, dans ma vie d'aujourd'hui? Eh ben, est-ce que je peux en faire une ressource? D'abord pour moi-même. Après, si je peux en faire en plus une ressource pour les autres, très bien. Mais c'est ça, quoi. La question du sens, elle est très très importante. Parce que si je souffre et que je n'arrive pas à donner du sens, c'est compliqué, quoi.
Alors, comment aider à donner du sens?
Le sens, c'est en fait devenir des alchimistes. Je pense qu'on est appelé dans la vie à devenir des alchimistes. C'est-à-dire que tout le plomb qu'on prend, là, on doit le transformer en or. Il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire que nos blessures, nos humiliations, nos traumas, enfin, tout ce qu'on s'est pris dans la figure, de manière injuste, toutes les couleuvres qu'on a avalées, etc., à un moment donné, il y a à reprendre une puissance là où on a connu l'impuissance face à tout ce qui nous est arrivé. Et la puissance dans le travail thérapeutique, elle est pouvoir revisiter son histoire à une place active. Ça, c'est important. C'est le contraire de mariner dans le passé. Et, ah mon Dieu, comme c'était dur, ah, je suis victime. Oui, à un moment, on a pu être victime, mais on travaille aujourd'hui sur voilà, toutes ces parts de moi, je les regarde et je les aide en fait à grandir, à me rejoindre. Et je crée une unité en moi qui fait que à un moment donné, j'apprends profondément, et pour ça, c'est comme si on doit l'apprendre dans notre chair, dans notre âme, que apprendre à me relever, c'est mieux que de ne pas être tombé quelque part. Et je parle de ça, c'est pas du tout un masochisme stupide de dire, ah oui, il faut souffrir dans la vie, c'est pas du tout ça. C'est juste que ça me donne un contact avec moi-même et une profondeur d'être qui est profondément une ressource et profondément une satisfaction dans ma compréhension du monde. C'est comme apprendre l'humanité à la force du cœur, quoi. Il y a quelque chose de comme ça dans cette alchimie pour donner du sens à mes blessures. Et je pense que renoncer à avoir un passé meilleur, c'est le moment où je parviens à honorer mes propres ressources. Et ces ressources, elles sont venues souvent d'une grande douleur. que j'ai alchimisé en moi, en fait. Voilà. Donc, c'est un processus, hein, c'est un processus.
Et comment vous les accompagnez, vos patients, aujourd'hui dans ce processus-là? Est-ce qu'il y a des grandes étapes? Vous parliez tout à l'heure de l'écriture.
Ouais.
Vous les invitez à écrire?
Certains, oui, tout le monde n'aime pas, mais certains, oui. Alors, il y a effectivement, moi, dans mon approche, qui est l'approche centrée sur la personne, qui a donné naissance au courant de la psychologie humaniste, on a vraiment trois conditions qui sont l'empathie, l'accueil positif inconditionnel, donc l'absolu non-jugement, et puis notre authenticité en tant que thérapeute. Moi, je travaille en tant que thérapeute et je travaille en tant que personne, c'est-à-dire, je ne me la joue pas, évidemment que j'ai une formation, évidemment que j'ai une expérience, mais je suis là profondément, je suis moi-même. Voilà. Et c'est un long travail de devenir soi-même, disons, de se mettre au monde. Donc il y a des conditions qui favorisent la relation thérapeutique et le fait d'aider les personnes à grandir en posant sur elles un regard d'acceptation. Sans injonction, c'est-à-dire que je ne suis pas là pour leur dire il faut faire ça, il faut faire ça. Pour moi, le travail thérapeutique, c'est exactement comme on part en excursion sur l'Everest, en fait. Je ne suis pas sur ma chaise à leur dire ah, va à gauche, attention, là, il y a du vent, ah, là, il y a une avalanche. Non, je mets mes chaussures, on y va ensemble. Je ne connais pas leur Everest, mais la montagne, je connais, par tous les temps. Alors, je peux être surprise, vous voyez, mais c'est un travail d'accompagnement où on est ensemble. Et où on est ensemble avec tout ce que la personne peut traverser. C'est-à-dire d'images d'elle dégradées, de traumatismes, de peur de mourir, de zones de désolation, de rire aussi. On rit des fois en thérapie avec des patients. Voilà, c'est tous ces moments de vie qu'on accueille sans les juger. Et c'est ce qui se crée dans cette. Dans cette excursion-là, qui fait que on retrouve une estime de soi, parce qu'on voit qu'en étant en relation, on peut être accepté tel qu'on est. Du coup, montrer des parts de nous-mêmes qui ont été ignorées ou détruites, abîmées. Voilà. C'est vraiment ce travail-là d'accompagnement. Et ça donne du sens au fait d'être vivant. Et je crois que c'est l'approche centrée sur la personne, elle est une approche qui respecte profondément le vivant. Moi, je pourrais pas faire ce métier si j'avais pas un profond respect du vivant et de la rencontre, c'est-à-dire de ce qu'il y a de sacré dans une rencontre chez chacun d'entre nous. C'est pas facile toujours d'avoir un regard positif inconditionnel, déjà sur moi-même. Vous voyez? Mais ouais, je crois que c'est quand même quelque chose comme ça. Ici, c'est un espace dans mon cabinet où on est loin des fureurs du monde et en même temps on est dans les fureurs du monde intérieur à certains moments et on traverse des tas en fait de pièces de nos maisons intérieures voilà, si je descends à la cave, je suis à la cave. S'il y a des araignées, il y a des araignées. Ouais, c'est un travail de chercheur d'une certaine manière. Et en même temps, ça nous demande, moi, une grande humilité. Parce que parfois, je pourrais avoir l'impression que c'est moi qui. Alors, je favorise des choses, mais je veux dire, ça ne m'appartient pas du tout. C'est un travail, qui est à la fois profond et qui est ensemble. Et ce n'est pas moi. Je peux avoir des satisfactions, parfois moins, mais c'est un travail exigeant de conscience en fait. Et vraiment, je trouve que le lien qui se crée ici, au cabinet, c'est un lien qui permet à mes patients de se rencontrer eux-mêmes. Et finalement, de se mettre au monde. Il y a quelque chose comme ça.
Vous parliez tout à l'heure, off, enregistrement, de la spiritualité, qui est quelque chose d'important pour vous. Qu'est-ce que vous pourriez dire de...
Ben, je pense que c'est encore une fois la question du sens. C'est-à-dire que je n'ai pas de religion. C'est-à-dire que si ça veut dire relié, alors oui, je me sens relié aux autres, au monde, Par moments, c'est un lien que je perds, et je crois qu'on le perd tous à certains moments. Il faut pas se leurrer, c'est difficile, les rapports humains, tout peut être difficile. C'est ok, c'est-à-dire que c'est possible. Moi, je traverse des moments où j'ai des doutes, je ne fais pas semblant de ne pas en avoir. Je travaille avec ça. Mais la spiritualité, c'est la question du sens pour moi. Qu'est-ce que c'est qu'être vivant? Être vivant ne va pas de soi. C'est pas parce que je respire que je suis vivante. Alors bien sûr, si je respire plus, je suis plus vivante. Mais être un être humain, c'est bien plus que ça. C'est bien plus que bouger, aller travailler, respirer. C'est vraiment la question du sens que je donne à ma vie, comment je suis à l'intérieur de moi, comment je suis en lien avec les autres, et comment je fais pour supporter à certains moments des choses qui me dépassent, qui se passent au niveau mondial, qui peuvent être très angoissantes. C'est un sacré travail, quoi. Vivre est un travail considérable, un travail parfois ingrat, anonyme, non salarié, et pourtant on doit le faire. Et je crois qu'on doit avoir pour nous-mêmes une grande tendresse parce qu'on est sur une planète agitée et c'est sacrément difficile si on veut devenir vraiment des êtres humains, vivants, en mouvement. C'est pire qu'un jeu vidéo, quoi. C'est vraiment. Et il y a une phrase là qui m'accompagne, moi, dans mon métier de thérapeute, une phrase de Christian Bobin. Que j'avais eu longuement au téléphone pour mon premier roman, Lucine, il m'avait appelé, ça m'avait beaucoup touchée. Et dans un de ses livres, il dit une phrase qui résume très bien tout ce qu'on vient de se dire sur les blessures d'enfance et le travail thérapeutique. Ce qui ne peut danser au bord des lèvres s'en va crier au fond de l'âme. Et c'est tout ce qu'on n'a pas pu parler, nommer. Et qui n'a pas pu danser au bord de nos lèvres, qui retourne hurler au fond de nous-mêmes et qui, à l'âge adulte, risque fort de nous rappeler à l'ordre de manière violente. Donc c'est ça aussi. Prenons le soin justement de laisser danser au bord de nos lèvres ce qu'on ressent pour pas que ça s'en aille dans des recoins obscurs, tapis dans l'ombre, qui vont nous faire plus mal par la suite. Donc c'est ça, c'est être attentif à ça en nous et pour notre entourage.
Eh bien, merci Ondine pour ces jolis mots.
Merci Amal.
J'ai envie de vous dire peut-être à bientôt.
Ouais, ouais,
je ne fais pas, la vie est longue. En tout cas, merci beaucoup pour nous avoir aidé à décrypter nos blessures d'enfance.
Merci.
Merci Ondine.
Eh bien, merci à tous pour votre écoute et votre fidélité. J'espère que ce contenu vous a été utile. Je rappelle le titre du dernier roman d'Ondine Kayat. Écoute la petite musique du Clos des Anges, guérir de ses blessures d'enfance chez Solar Edition. Je vous dis à très vite pour d'autres découvertes et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt.